Moi, boy, souvenir d'enfance, Roald Dahl. Puisqu'il faut un début à tout, chapitre 1, papa et maman. Mon père, Harald Dahl, un Norvégien, naquit près d'Oslo, dans une petite ville du nom de Sarpsborg. Son père, mon grand-père, était un marchand relativement prospère, propriétaire à Sarpsborg d'un magasin où l'on vendait tous les produits imaginables, du fromage râpé au grillage de poulailler. J'écris ceci en 1984. Mais ce grand-père dont je parle était né, rendez-vous compte, en 1820, peu après la victoire de Wellington sur Napoléon à Waterloo. Si mon grand-père vivait encore, il aurait 164 ans et mon père 120 ans. L'un et l'autre avaient eu leurs enfants sur le tard. Alors que mon père avait 14 ans, ce qui remonte tout de même à plus d'un siècle, il était perché sur le toit de la maison familiale en train de remplacer des tuiles lorsqu'il glissa et tomba à terre. On le releva, le bras cassé en dessous du coude. Quelqu'un courut chercher le docteur et une demi-heure plus tard, ce personnage fit une arrivée aussi majestueuse qu'éthylique dans son buggy attelé d'un cheval. Il était tellement saoul qu'il prit le coude fracturé pour une épaule démise.
« Nous aurons vite fait de remettre ça en place » s'exclama-t-il.
Et on fit appel à deux hommes qui passaient dans la rue pour aider à tirer sur le membre. Ils reçurent comme consigne de tenir mon père par la taille tandis que le docteur saisissait le poignet de son bras cassé et vociférait « Tirez, messieurs, tirez, tirez de toutes vos forces !» La douleur dut être atroce. La victime hurla et sa mère, qui assistait, horrifiée à la scène, s'exclama « Arrêtez !» Mais les torsionnaires avaient déjà commis de tels dégâts qu'une esquille d'os perçait à travers la peau de l'avant-bras. Cela se passait en 1877, et la chirurgie orthopédiste n'était pas alors ce qu'elle est aujourd'hui. On se contenta donc d'amputer le membre à hauteur du coude, et pour le restant de ses jours, mon père dut se débrouiller avec un seul bras. Fort heureusement, c'était le gauche qu'il avait perdu et au long des années, il apprit à faire plus ou moins tout ce qu'il voulait avec les quatre doigts et le pouce de sa main droite. Il réussissait à nouer un lacet de chaussures aussi vite que vous et moi et pour pouvoir couper sa nourriture dans son assiette, il avait affûté la tranche d'une fourchette qui lui servait ainsi également de couteau. Il rangeait son ingénieux instrument dans un mince étui en cuir qu'il gardait dans sa poche partout où il allait. Son infirmité, disait-il volontiers, ne présentait pour lui qu'un seul inconvénient sérieux. Il lui était impossible de décapiter un œuf à la coque. Mon père avait un an et quelques de plus que son frère Oscar, mais ils étaient exceptionnellement proches l'un de l'autre, et peu après avoir achevé leurs études, ils firent une longue promenade ensemble afin de discuter de leur avenir. Ils arrivèrent à la conclusion qu'une petite ville comme Sarpsborg, dans un petit pays comme la Norvège, n'était pas l'endroit idéal pour faire fortune. Il leur fallait donc, décidèrent-ils, s'expatrier dans l'un des grands pays voisins, la France ou l'Angleterre, où les occasions de réussir seraient illimitées. Leur propre père, un aimable géant de près de 2 mètres, ne possédait pas l'énergie et l'ambition de ses fils, et il refusa de souscrire à ce projet absurde. Lorsqu'il leur interdit de partir, ils s'enfuirent de la maison et tous deux se débrouillèrent pour payer leur voyage en France en travaillant sur un cargo. De Calais, ils gagnèrent Paris et une fois à Paris, ils décidèrent d'un commun accord de se séparer, chacun désirant rester indépendant de l'autre. L'oncle Oscar, pour je ne sais quelle raison, poursuivit vers l'ouest pour se rendre à La Rochelle, sur la côte atlantique, tandis que mon père, provisoirement, resta à Paris. L'histoire de ces deux frères qui créèrent des affaires totalement différentes dans des pays différents et qui firent tous deux fortune est intéressante. Mais je n'ai pas le temps de la raconter ici si ce n'est des plus brièvement. Commençons par l'oncle Oscar. La Rochelle était alors et est restée un port de pêche. À 40 ans, il était devenu l'homme le plus riche de la ville. Il possédait une flotte de chalutiers appelés « pêcheurs d'Atlantique » et une grande conserverie où les sardines, ramenées par ces chalutiers, étaient mises en conserve. Il épousa une jeune fille de bonne famille, acquit une magnifique demeure en ville ainsi qu'un grand château à la campagne. Il entreprit de collectionner les meubles Louis XV, les beaux tableaux et les livres rares et tous ces admirables objets ainsi que les deux propriétés sont restés dans la famille. Je n'ai jamais vu le château à la campagne, mais je suis allé il y a 2 ans dans la maison de La Rochelle et elle vaut le déplacement. Le mobilier, à lui seul, est digne d'un musée. Tandis que l'oncle Oscar s'enrichissait à La Rochelle, son frère Manchot, Harald, mon propre père, ne restait pas oisif. Il avait fait la connaissance à Paris d'un autre jeune Norvégien du nom d'Adnesen, et tous deux décidèrent de s'associer et de devenir courtiers maritimes. Un courtier maritime est une personne qui fournit à un navire tout ce dont il a besoin quand il entre dans un port. Combustible et nourriture, filins et peintures, savons et serviettes, marteaux et clous, ainsi que des milliers d'autres petits objets variés. Un courtier maritime, c'est une sorte de marchand qui approvisionne les navires sur une vaste échelle et le produit essentiel qu'il leur fournit, c'est le combustible destiné à l'alimentation des moteurs. Il n'en existait alors qu'une sorte, le charbon. En ces temps lointains, les moteurs diesel marins étaient inconnus. Tous les navires étaient à vapeur et ces vieux bateaux emmagasinaient des centaines et même des milliers de tonnes de charbon pour un seul voyage. Pour les courtiers maritimes, le charbon était de l'or noir. Mon père et son ami de fraîche date, M. Adnesen, le comprirent fort bien. Il était logique, décidèrent-ils, de créer leur affaire de courtage maritime dans un des plus grands ports charbonniers d'Europe. Lequel serait-ce ? La réponse était simple. Le plus grand port charbonnier du monde, en ce temps-là, c'était Cardiff, au Pays de Galles. Les voilà donc partis pour Cardiff, ces deux jeunes ambitieux, n'emportant avec eux qu'un maigre bagage ou pas de bagage du tout. Mais mon père emmenait un bien beaucoup plus précieux que des bagages, une femme. Une jeune Française du nom de Marie qu'il avait épousée peu de temps auparavant à Paris. À Cardiff, ils créèrent la firme de courtage maritime Adnesen et Dahl et louèrent une unique pièce dans Bute Street en guise de bureau. À partir de là, la réussite qui s'ensuivit peut sembler un de ces contes de fées quelque peu exagérés, mais en vérité, elle fut le fruit du travail acharné et de l'esprit avisé des deux amis. Très vite, Adnesen et Dahl furent débordés de commandes et les deux associés ne purent plus, à eux seuls, suffire à la tâche. Il fallut agrandir le bureau et engager des employés. L'argent commença alors à affluer dans les caisses. En quelques années, mon père put acheter une belle maison dans le village de Llandaff, tout près de Cardiff, et ce fut là que son épouse, Marie, lui donna 2 enfants, un garçon et une fille. Mais elle mourut tragiquement en donnant naissance au second. Lorsqu'il eut en partie surmonté le choc et le chagrin que lui avait causé sa mort, mon père se rendit compte que ses 2 enfants avaient bien besoin d'une belle-mère pour s'occuper d'eux. Et surtout, il se sentait terriblement esseulé. De toute évidence, il lui fallait essayer de trouver une autre épouse. Mais voilà qui était plus facile à dire qu'à faire pour un Norvégien vivant au Pays de Galles et qui ne connaissait pas grand monde. Il décida donc de prendre des vacances et de retourner dans son pays natal, la Norvège. Qui sait, peut-être aurait-il la chance de rencontrer dans sa patrie une nouvelle et charmante épouse. Durant l'été de 1911, alors qu'il naviguait sur un petit vapeur côtier dans l'Oslofjord, il fit la connaissance d'une jeune personne, Sophie Magdalene Hesselberg. Étant homme à reconnaître d'emblée une perle rare, il lui demanda sa main moins d'une semaine plus tard et l'épousa peu après. Harald Dahl emmena son épouse norvégienne en voyage de noces à Paris et regagna ensuite la maison de Llandaff. Tous deux étaient profondément amoureux l'un de l'autre et nageaient en plein bonheur. Au cours des 6 années qui suivirent, elle lui donna 4 enfants, une fille, une autre fille, un garçon, moi, et une 3e fille. Il y avait maintenant 6 enfants dans la famille, 2 de la première épouse de mon père et 4 de la seconde. Il fallait donc une maison plus vaste et plus belle, et l'argent ne manquait pas pour l'acheter. Ainsi donc, en 1918, j'avais alors 2 ans, nous emménageâmes tous dans une imposante demeure campagnarde près du village de Radyr, à environ 12 kilomètres à l'ouest de Cardiff. Je m'en souviens comme d'un édifice prestigieux, au toit orné de tourelles, avec de majestueuses pelouses et des terrasses sur toutes les façades. Il était environné de nombreux hectares de terres cultivables et de bois, avec un certain nombre de cottages pour le personnel. Très vite, les prairies se remplirent de vaches laitières, les porcheries de porcs et les poulaillers de poules. Il y avait plusieurs robustes chevaux de trait pour tirer les charrues et les charrettes à foin, Il y avait un laboureur, un vacher, deux jardiniers, toutes sortes de serviteurs dans la maison même. Tout comme son frère Oscar à La Rochelle, Haraldal avait réussi au-delà de toute espérance. Mais voilà ce qui m'intéresse le plus au sujet de ces deux frères, Harald et Oscar. Bien qu'ils fussent nés dans une petite ville d'une famille simple et sans prétention, tous deux, indépendamment l'un de l'autre, se découvrirent un intérêt passionné pour les belles choses. Dès qu'ils en eurent les moyens, ils commencèrent à remplir leur maison de tableaux de maître et de meubles de prix. En outre, mon père devint un expert en jardinage et par-dessus tout un collectionneur de plantes alpines. Ma mère me racontait les expéditions qu'ils faisaient tous deux dans les montagnes de Norvège, où ils la terrifiaient en grimpant d'une seule main le long de falaises abruptes afin d'atteindre des touffes minuscules poussant sur quelques corniches rocheuses. C'était également un sculpteur sur bois accompli, et la plupart des cadres de miroirs dans la maison avaient été faits de sa propre main. Ainsi d'ailleurs que tout le manteau de la cheminée dans le living room, une admirable composition de fruits, de feuillages et de branches emmêlées, sculptées dans le chêne. Son journal intime était également extraordinaire. Je possède encore l'un de ses nombreux carnets de notes de la Grande Guerre de 14-18. Chaque jour que Dieu fit, au cours de ces 5 années de guerre, il écrivit plusieurs pages de commentaires et d'observations sur les événements de l'époque. Il écrivait à la plume, et bien que le norvégien fût sa langue maternelle, il rédigeait toujours ses notes dans un anglais impeccable. Il soutenait une curieuse théorie sur la façon de développer le sens de la beauté dans l'esprit de ses enfants. Chaque fois que ma mère était enceinte, il attendait les 3 derniers mois de sa grossesse et lui annonçait alors que les glorieuses promenades devaient commencer. Ces glorieuses promenades consistaient pour lui à la conduire en d'harmonieux sites campagnards et à s'y promener avec elle environ 1 heure par jour afin qu'elle pût s'imprégner de la splendeur environnante. D'après lui, si l'œil d'une femme enceinte observait constamment la beauté de la nature, cette beauté se transmettrait d'une façon ou d'une autre à l'esprit du bébé dans son ventre et le bébé, quand il grandirait, aurait à son tour le goût du beau. Ce fut là le traitement que reçurent tous ses enfants avant même d'être nés.